Bonjour à tous et à toutes. En écoutant un peu la présidence, en suivant, je pensais à ce texte dans le livre d'Ésaïe, où Ésaïe commence son ministère avec six malheurs sur l'infidèle Israël. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison, malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes, malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice, etc. Malheur, malheur, malheur. Et puis dans le chapitre suivant, chapitre 6, il voit Dieu assis sur son trône, dans toute sa splendeur, dans toute sa gloire, et là il dit, malheur à moi. Et je trouve bouleversant de quand on s'approche de Dieu, quand on s'approche de l'œuvre de la croix. Ce qui nous vient en premier lieu, c'est malheur à moi. Malheur à moi, je suis un homme pécheur. Il dit, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. C'est le prophète Ésaïe. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Et il faut qu'un ange vienne et purifie les lèvres de sa bouche comme il doit purifier les miennes ce matin pour annoncer la parole de Dieu. On est dans cette série « Les valeurs de l'EBTM ». Et la première lettre de l'EBTM, le E, nous rappelle notre valeur de l'Évangile. Et j'aimerais qu'on lise dans le livre de Paul aux Galates les premiers versets de ce chapitre 2. Galates chapitre 2, on va lire les versets 1 à 10, là où Samuel s'est arrêté la semaine dernière. Je lis 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas, Dieu ne fait point de favoritisme, ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien, au contraire. Voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a fait de moi l'apôtre des païens, et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions nous vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. La grande question de ce chapitre et dans toute l'épître, c'est la justification par la grâce, par le moyen de la foi. Et dans le ministère de l'apôtre Paul, on le voit se faisant tout à tous, afin de gagner le plus grand nombre. Donc il y a une certaine souplesse chez l'apôtre dans la manière dont il va vivre sa foi, la manière dont il va apporter l'évangile pour ne faire aucun obstacle à l'évangile. Mais quand il s'agit de l'évangile lui-même, alors il résiste, dit-il ici, il leur résista et il ne leur céda pas un pouce afin que l'évangile, la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. Et là, il commence par rappeler l'époque où il est monté à Jérusalem avec Barnabas et Tite. pour rencontrer les apôtres au sujet de cette question qui a été débattue dans toute l'Église, dans toutes les églises à ce moment-là, parce qu'il y avait des faux prophètes qui laissaient un enseignement corrompu, disant qu'il faut être circoncis pour être sauvé. Il faut les œuvres de la loi pour pouvoir être sauvé. Et la circoncision pour les juifs, mais même pour le monde de l'époque, c'était capital. Dans la perspective juive, c'était le symbole d'un peuple mis à part pour Dieu. Toute la loi était pour les circoncis. On parlait des circoncis et puis des incirconcis. Voilà, il y a deux genres de personnes dans le monde. Paul était déjà monté à Jérusalem, mais très brièvement, 3 ans après sa conversion et le début de son ministère de prédicateur. Il rappelle qu'il n'a pas appris l'évangile par la bouche d'autres hommes. Mais il dit au verset 12 du chapitre 1, je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Il dit, l'évangile que je prêche, c'est un évangile qui m'a été révélé par Dieu lui-même. Il dit, 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem. Ça fait maintenant, 3 plus 14, 17 ans qu'il prêche cet évangile. Et par la prédication de cet évangile, une multitude d'églises ont déjà été implantées dans le premier voyage missionnaire. Ils ont vu comment Dieu avait ouvert aux nations la porte de la foi. Tite lui-même est avec eux, c'est un grec, un véritable croyant. Il est donc la preuve vivante et irréfutable que la circoncision et l'observation des prescriptions de la loi mosaïque ne sont pas nécessaires au salut. Personne n'aurait mis en doute le salut de Tite, et pourtant il n'était pas circoncis. Voilà la preuve. C'est bien que la circoncision, et au-delà d'elle, l'obéissance à la loi, n'était pas un moyen de salut. C'est ce qu'il rappelle verset 16, à deux reprises, il dit « néanmoins », dans le chapitre 2, « néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi. Parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. » Il dit, nous les juifs, les circoncis, on a dû croire en Jésus-Christ pour être sauvés. C'est bien la preuve que la circoncision n'était pas suffisante, que les œuvres de la loi ou l'application des œuvres de la loi ne pouvaient pas sauver nos âmes. On a dû croire, nous aussi. Au verset 21, il termine ce chapitre en disant « Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. » Il dit, vous comprenez l'enjeu? Si on peut être sauvé par nos œuvres, alors Christ est mort pour rien. Y a-t-il un plus grand affront que l'on puisse faire? Y a-t-il un plus grand mépris que l'on peut jeter sur l'œuvre de Jésus-Christ? Maintenant, je voudrais noter que les apôtres sont tous d'accord sur le message de l'Évangile. C'est au verset, dans notre passage, au verset 7, il dit, au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a fait aussi de moi l'apôtre des païens, et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Cephas et Jean, qui sont regardés comme les colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions, nous, vers les païens, et eux, vers les circoncis. Il n'y a pas deux évangiles. Il n'y a pas un évangile pour les juifs et un évangile pour les païens. Non, il y a un seul et même évangile. Le même évangile pour tous, le même évangile annoncé aux juifs, le même évangile annoncé aux non-juifs. Le Saint-Esprit ne défend qu'un seul évangile. Et c'est lui qui a fait de l'apôtre Pierre l'apôtre des circoncis. Et c'est le Saint-Esprit aussi qui a fait de l'apôtre Paul l'apôtre des incirconcis. Et pour montrer leur parfaite unité de pensée, Pierre, ici appelé Cephas, Jacques et Jean, les colonnes de l'Église, eh bien, vont donner la main d'association à Barnabas et à Paul. dans le contexte du Proche-Orient, ce geste, ça constitue un vœu solennel d'amitié. C'est la marque d'un partenariat. Il signifiait que les apôtres reconnaissaient Paul et Barnabas comme prédicateurs du même évangile, du véritable évangile, et comme des partenaires dans leur ministère. Ceci dit, nous allons regarder ce passage. Dans ce passage, une recommandation étonnante associée à l'évangile. Je voudrais voir trois choses ce matin. D'abord, une recommandation étonnante qui est associée à l'évangile. On verra ensuite l'illustration saisissante de l'évangile, une illustration saisissante de l'évangile, et puis enfin une libération agissante par l'évangile. Alors, une recommandation étonnante associée à l'évangile. Et voilà le truc maintenant. Verset 10. Après avoir dit tout cela, il dit, et ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Vous imaginez ce qu'il dit là ? Paul vient de rappeler qu'il avait rencontré les apôtres à Jérusalem pour traiter la question du rôle de l'observation de la loi dans le salut. Il vient de faire la démonstration que la loi est parfaitement inefficace pour le salut, puisque c'est par elle que nous avons connaissance de notre état de péché et que son rôle est de nous déclarer coupables. La loi, elle, nous condamne simplement. Il rappelle qu'ils sont tous d'accord. Ils se serrent la main, se tapent dans le dos, et puis ils leur disent, « Hé, les frères, une dernière chose. Souvenez-vous des pauvres. Souvenez-vous des pauvres. » Mais ça, c'est une œuvre, ça, non ? Il est en train de dire l'évangile seulement, la foi seulement, l'œuvre de Christ seulement, la grâce seulement. Et puis il ajoute, « Hé, les frères, pensez aux bonnes œuvres, hein, pour les pauvres. » Comment est-ce possible de dire une chose pareille à ce moment-là ? Regardez, ce souvenir des pauvres, c'était la loi, Deutéronome chapitre 15. Deutéronome chapitre 15, versets 7 et 8. Il est dit ici, Deutéronome 15, verset 7, « S'il y a chez toi quelque indigent d'entre tes frères, dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur, et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent, mais tu lui ouvriras ta main, et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. » Deuxième partie du verset 9, « Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent, et de lui opposer un refus. Il crierait à l'Éternel contre toi, et tu te chargerais d'un péché. Donne-lui, et que ton cœur ne lui donne point à regret, car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous les travaux et dans toutes les entreprises. Il y aura toujours des indigents dans ce pays, et c'est pourquoi je te donne ce commandement, tu ouvriras ta main à ton frère et aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. » C'est pas dingue ça ? C'est la loi. Je trouve ça étonnant dans sa démonstration de ce qu'est l'Évangile, de mentionner le sujet de la générosité envers les pauvres, de la nécessité de se soucier des pauvres. Et pourquoi cette recommandation et pas celle, par exemple, de prendre à cœur l'éducation de ses enfants ? Pourquoi il parle des pauvres, là, et non pas d'aimer sa femme ? Ou d'être soumis aux autorités. Et encore, c'est pas tout. Paul n'est pas simplement disposé à le faire. Quand il entend cette parole, souvenez-vous des pauvres, il dit pas, Barnabas, t'as entendu ça, faut qu'on se souvienne. Ils ont dit qu'il faut qu'on se souvienne des pauvres. Ok, on, Ok, on va le faire. Un peu comme quand je dis à mes enfants, les enfants, ramassez vos chaussures qui sont dans l'entrée. Ils me disent, ouais, pas. Ouais, on va le faire. Hein. La motivation n'y est pas, mais on va le faire. Hein. Mais ce n'est pas du tout l'attitude de Paul. Il dit, ce que j'ai eu bien soin de faire. Ce que j'ai eu bien soin de faire, selon d'autres traductions, ce que je me suis empressé de faire, ce que je me suis appliqué à faire. Paul n'est pas simplement disposé à le faire, mais il est désireux de le faire. Et même il le fait déjà. Il leur dit en quelque sorte, tu peux compter sur moi, je vais me souvenir des pauvres. Pourquoi est-ce qu'ils ajoutent une telle parole? Pourquoi une telle recommandation? Pourquoi la nécessité d'une telle œuvre? Est-ce parce que les frères de Jérusalem sont tellement pauvres, tellement dans le besoin? Comme s'ils disaient, hé Paul, souviens-toi des pauvres. Tu sais combien on est pauvres, nous, hein? Souviens-toi de nous. Non, c'est pas cela. C'est pas ce qu'il est en train de dire. Les chrétiens, en effet, de Jérusalem étaient vraiment dans le besoin, même avant la grande famine qui les a frappés. L'Église avait grandi par centaines. Beaucoup, des milliers peut-être, s'étaient convertis lors d'un séjour dans la ville de Jérusalem, et ils avaient décidé de rester à Jérusalem plutôt que de rentrer chez eux. Beaucoup découvraient combien c'était difficile, maintenant qu'ils étaient devenus chrétiens, de trouver un travail. Pas de travail pour les chrétiens. Il y avait beaucoup de pauvres à Jérusalem, mais je ne pense pas que c'est pour cette raison qu'il leur demande de se souvenir des pauvres. Très tôt d'ailleurs dans le début de son ministère, avant même de se rendre à Jérusalem, Paul et Barnabas ont pris soin des pauvres, et en particulier ceux de Judée. D'où vient donc cette recommandation? D'où vient cette recommandation? Cette recommandation provient de l'Évangile lui-même. Et c'est pour cela que les apôtres ne sont pas hors sujet en faisant cette recommandation. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul, lorsqu'il défend la vérité de l'Évangile dans sa lettre aux Galates, rappelle cette recommandation. C'est une recommandation étonnante peut-être, mais elle est associée, elle marche avec l'Évangile. Cette recommandation, c'est aussi une illustration saisissante de l'Évangile. L'Évangile, la bonne nouvelle, nous est rappelée en ces termes en 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Il dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. » Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Mes frères et sœurs, se souvenir des pauvres, c'est rappeler ce que Dieu a fait pour nous. C'est rappeler que Jésus-Christ s'est souvenu de nous. Lorsque nous étions encore dans notre misère, c'est illustrer la grâce de Dieu. Se souvenir des pauvres, c'est manifester la grâce de Dieu. Lorsque Jésus enseigne ses disciples en Luc chapitre 14, voici ce qu'il dit. Luc 14, verset 12. J'aimerais relever cela. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, « Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour, et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te leur rendre l'appareil. Car elle te sera rendue à la résurrection des justes. » Il dit « invite des pauvres » parce qu'ils ne peuvent pas te le rendre. Et pourquoi est-ce qu'il dit ça? C'est juste pour illustrer l'Évangile. C'est pour illustrer la grâce de Dieu. Ce que Dieu nous a donné, nous ne pouvons pas le lui rendre. Ce que Dieu a fait pour nous, nous ne pouvons pas le lui acheter. Le cadeau qu'il nous fait, le pardon de nos fautes, la vie éternelle, C'est gratuit, on ne peut pas le lui rendre, on peut simplement l'accepter et en jouir. On ne peut pas le mériter. Nous étions complètement démunis, sans la moindre justice. Et Dieu nous a fait grâce, au lieu de nous laisser à notre pauvre sort, il nous a secourus. Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que nous soyons enrichis. Et c'est pour ça que Paul dit, souvenez-vous des pauvres. Rappelez constamment dans votre vie, au travers de vos actes, la beauté, la splendeur, la grâce qui est dans l'Évangile et dont vous avez été favorisés. Lorsque Jésus a commencé son ministère, il est entré dans la synagogue de Nazareth, ça c'est Luc chapitre 4 qui nous rappelle ça. Et puis, en entrant dans la synagogue, verset 16, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, c'est le début de son ministère. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, Ésaïe 61, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. La bonne nouvelle n'est-elle pas pour le monde entier? Jésus dit, la bonne nouvelle doit être annoncée aux pauvres. Aux pauvres. La bonne nouvelle est pour les pauvres, pour ceux qui mesurent leur indigence. Elle est pour ceux qui se savent malades. Elle est pour ceux qui se savent aveugles. Quelque temps plus tard, Jean-Baptiste, emprisonné, s'interrogeait sur l'identité du Messie. Évangile de Luc, chapitre 7. Et il a envoyé ses amis vers Jésus pour l'interroger. Verset 20, il est dit, arrivé auprès de Jésus, ils dirent, Jean-Baptiste nous a envoyé vers toi pour dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles et il leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Pendant les 3 années de son ministère, les 12 ont assisté constamment à l'annonce par Jésus-Christ de la bonne nouvelle aux pauvres. Ceux qui ne l'étaient pas ne l'écoutaient pas. Les pharisiens se croyaient riches en justice. Les hérodiens avaient un parti puissant, ils étaient influents. Ils avaient à leurs propres yeux une grande valeur. C'est pour cela que la recommandation est faite ici, souvenez-vous des pauvres. C'est la marque de l'Évangile. Quand un homme a vu sa misère, lorsqu'un homme a mesuré la déchéance de son être, quand il a été écrasé par le poids de son péché, écrasé par la culpabilité, anéanti par son incapacité à changer, et qu'il a finalement découvert en Jésus-Christ son Sauveur, lorsqu'il a goûté à la grâce, au pardon de toutes ses fautes, lorsqu'il a compris que Jésus a payé pour lui, qu'il a reçu sur lui la peine que méritaient ses fautes, alors, nécessairement, son cœur devient compatissant envers les pauvres. Cette recommandation qui est faite ici provient de l'œuvre de la croix. quand on a compris l'œuvre de la croix, on se soucie des pauvres. A contrario, Jésus raconte cette parabole dans Matthieu 18, au verset 23-35. Vous connaissez cette histoire, un homme était criblé d'une dette colossale. Et puis, contraint de payer, dans son incapacité de payer, il a supplié son créancier, son maître, qui lui a remis sa dette. Au verset 27, il est dit « Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. » Mais cet homme n'a pas manifesté de compassion envers celui qui lui devait une peccadille. Verset 28, la deuxième partie, il se saisit de cet homme et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois !» Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait de la même manière qu'il l'avait fait lui-même quelques minutes plus tôt, disant « Aie patience envers moi et je te paierai !» Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Et c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Si vous avez vu tous vos péchés effacés par le sang de Christ, alors vous ne pouvez pas ne pas avoir compassion des autres. Dernière chose que je voudrais relever, c'est une libération agissante par l'Évangile. En Luc 19, il nous est rapporté l'histoire de la conversion de Zachée. Zachée était collecteur d'impôts. Il faut bien comprendre ce que c'était qu'un collecteur d'impôts. Un collecteur d'impôts, aujourd'hui encore, ceux qui travaillent aux impôts, ils évitent de le dire. Il y a une opprobre qui va avec. Personne ne s'en vante. Mais à l'époque, un collecteur d'impôts, un publicain, c'était un peu comme un collabo. Pendant la Seconde Guerre mondiale. Il travaillait avec l'envahisseur pour son profit. C'était des gens comme ceux qui vendent des crédits et des crédits et des crédits à des taux hallucinants que vous n'êtes pas capable de rembourser, qui vous ruinent et qui vous saignent jusqu'à la dernière goutte. C'était ce genre d'homme. Ou ces businessmen là, qui rachètent des sociétés en faillite, une bouchée de pain, ils démantèlent la société, ils font un gros profit, et puis ils laissent des salariés sur le carreau, des gens dans la détresse, et eux se sont enrichis honteusement. Qu'est-ce qui pouvait pousser un homme à chercher un tel travail de collecteur d'impôts? Qu'est-ce qu'il y avait de si séduisant pour qu'un homme accepte de trahir sa propre famille, son propre peuple, les gens de sa propre ville, pour finir comme un paria? Il était juste reclus chez lui, personne ne lui parlait, il était un escroc au fond. Qu'est-ce qui peut pousser un homme à de tels agissements et à accepter de telles conséquences? L'argent. L'argent, juste l'argent. L'offre était quasiment irrésistible en plus. Hein. Le système monté par Rome était bien fait. Les Romains ne s'occupaient pas en fait de la collecte des impôts. Ils avaient établi des hommes, des collecteurs d'impôts, pour le faire à leur place. C'était des hommes du pays. Ils leur disaient, nous, ce que l'on veut pour cette région, c'est telle somme. On te fait un forfait. Et puis ce qu'on fait, c'est qu'on met à ta disposition toute l'armée romaine, toute la puissance de Rome. Si jamais tu as un problème, l'armée est là. Et donc les collecteurs collectaient pour pouvoir rendre à Rome ce qui était exigé, le forfait. Mais ils collectaient aussi beaucoup plus pour leurs pommes. Est-ce que c'est ce que Zachée a fait? Et ça faisait que ces publicains étaient les hommes certainement les plus riches des villes, mais aussi les plus détestés. Et Zachée, lui, c'est un chef des publicains. Qu'est-ce qui peut pousser un homme à cela? La cupidité, désir de posséder, d'amasser. Un pasteur a fait remarquer cela. Il dit, j'ai entendu des gens dans mon ministère confesser toutes sortes de péchés. Mais de mémoire, je ne me souviens pas de quelqu'un qui ait confessé, j'ai un problème avec l'argent. J'ai un problème de cupidité. J'ai un problème dans ma manière de vouloir amasser. Ou j'ai un problème dans ma manière de toujours vouloir dépenser. Et c'est probablement que la cupidité se cache aux yeux de ses victimes. C'est facile de savoir si vous êtes adultère. Si vous êtes adultère, normalement, vous savez, vous regardez la personne qui couche avec vous. Si ce n'est pas votre épouse ou votre mari, vous êtes adultère. En réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais ce n'est pas le sujet. Mais l'argent, la cupidité. À quel moment je suis cupide? À quel moment j'ai un problème avec l'argent? Et le dieu argent, il est appelé Mammon hein, dans les Écritures. Il aveugle nos cœurs. Et en fait, ça fait partie de son mode opératoire. Il cache son emprise dans nos vies, à nos propres yeux. Mais Paul dit clairement que la cupidité est une forme d'idolâtrie. Il le dit à plusieurs reprises, en Colossiens chapitre 3 verset 5, en Éphésiens chapitre 5 verset 5. Bibliquement parlant, les idolâtres font trois choses, souvenez-vous de cela, trois choses avec leurs idoles. La première chose, c'est qu'ils les aiment. Deuxième chose, ils leur font confiance. Et la troisième chose, c'est qu'ils leur obéissent. Ceux qui aiment l'argent sont ceux qui rêvent d'une nouvelle manière de gagner de l'argent. Ou qui rêvent de nouveaux biens à acquérir. Ceux qui aiment l'argent, ce sont ceux qui sont jaloux de ceux qui possèdent plus qu'eux. Misère, quand je réfléchis à ça, j'ai peut-être un problème avec l'argent. Ceux qui mettent leur confiance en l'argent croient que leur sécurité et le contrôle qu'ils ont sur leur vie viennent de ce qu'ils possèdent. Non, tout va bien, là, la bourse fait comme ça, là, ça va. Non, tout va bien, de toute façon, là, avec ce que j'ai sur mon compte, là, il peut y avoir un coup dur, c'est bon. Non, là, de toute façon, je suis fonctionnaire, moi. Je ne risque rien. Le salaire va toujours tomber. Voyez la chose. On se confie. On se confie dans notre argent. Enfin, L'idolâtrie nous rend serviteurs de l'argent. Jésus dit, nul ne peut servir deux maîtres, car soit il haïra l'un et aimera l'autre, soit il méprisera l'un et méprisera l'autre. Le mot pour servir ici, c'est cette idée de faire allégeance. Vous voyez ce que c'est? C'est vraiment prêter allégeance, c'est être entièrement à son service. On l'a en haute estime parce que c'est lui qui nous apporte notre statut. C'est lui qui nous apporte notre sécurité. Luc 12, verset 15, Jésus dit « Gardez-vous avec soin du désir de posséder sous toutes ses formes, car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. » Si Dieu devient le centre de notre vie par l'Évangile, alors l'argent se trouve détrôné et ramené au second plan. Si votre sécurité et votre identité se trouvent en Dieu, l'argent ne peut plus vous contrôler, soit par l'inquiétude, on est tout le temps en train de se dire « comment je vais faire pour en garder ?» ou soit par le désir d'en avoir davantage. C'est soit l'un, soit l'autre. Dieu ou Mammon, Jésus-Christ ou le Dieu des richesses. Voilà pourquoi une telle recommandation est faite. Souvenez-vous des pauvres. Que votre cœur soit détaché de cela. Ça, c'est la marque de ce que Jésus-Christ est en train de régner sur votre propre cœur. Dans Luc, chapitre 19, Jésus traverse la ville de Jéricho. C'est là où règne en despote Zachée. Et puis, Zachée, il a entendu que Jésus passe. Il y a déjà un de ses gars, Matthieu, Lévi, qui était un disciple du Seigneur, qui, lui, avait tout plaqué. Il était aussi collecteur d'impôts publicain. Il a tout plaqué, il a suivi Jésus. Lui, ça le travaille. Et il dit, mais ouais, il faudrait que je le voie quand même, lui, parce que j'ai beau amasser, et plus j'amasse, mon cœur est vide. J'ai des angoisses. J'en ai jamais suffisamment. Je pensais m'arrêter avec ça, mais j'en veux encore plus. Mon cœur est vide. Il essaye de voir Jésus, mais comme il est de petite taille, personne ne le laisse passer. Du coup, il monte sur un arbre. Dans la pensée judaïque de l'époque, monter sur un arbre, c'était pour les enfants. Si tu fais ça, t'es ridicule. T'es ridicule! Et l'homme le plus riche probablement de la ville est monté dans un arbre, prêt à être ridicule du moment qu'il voit Jésus. Mais pas comme les autres l'ont vu, « Oh tiens, c'est Jésus !» Non, c'est de le voir avec cette idée de savoir ce qu'il peut lui apporter pour sa propre vie. Et Jésus s'arrête, et au lieu que ce soit Zachée qui l'interpelle, c'est Jésus qui interpelle Zachée. « Zachée, descends de ton arbre, parce qu'il faut aujourd'hui que j'entre dans ta maison. » Et à ce moment-là, tout le monde dit, « Oh là 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 là, il a choisi le pire gars. » pour aller manger chez lui. Manger chez lui, c'est quand même... dans toutes les sociétés, manger chez quelqu'un, c'est faire copain-copain, c'est être ami. Les autres sont scandalisés. Il rentre dans cette maison. Verset 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Ah. C'est beau. La première pensée chrétienne qui lui vient, c'est « je donne la moitié pour les pauvres ». Il n'est pas en train de dire « j'ai une dette envers les pauvres ». Ou je les ai tellement escroqués, il faut que je leur donne. Il n'est pas en train de réparer ici quelque chose. Il dit, je donne la moitié pour les pauvres. Et il dit ça parce que Jésus a eu tellement compassion de moi, de ma misère. Alors moi aussi, je veux avoir compassion des autres. Et la moindre des choses que je puisse faire, c'est, je donne la moitié. Et après cela, la justice devait être réparée. Il dit, si à tous ceux que j'ai escroqués, je vais leur donner quatre fois plus selon les exigences de la loi. Et vous avez remarqué ici le verset suivant, verset 9, Jésus lui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Quand Jésus voit la manière dont Zachée gère son argent maintenant, il sait clairement que l'argent qui était son Dieu, son idole, eh bien, est déplacé. Maintenant, l'argent, ça n'est plus son maître. Maintenant, l'argent, c'est son serviteur. Il va pouvoir servir les autres avec cela. Il va pouvoir faire du bien aux autres avec cela. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Cet homme a été libéré. Il a été libéré de son esclavage, il a été libéré de son idolâtrie. Voilà pourquoi cette recommandation, elle est si importante au moment où l'apôtre Paul parle de la pureté de l'évangile. Il dit « Souvenez-vous des pauvres ». Parce que cette recommandation nous rappelle ce que Dieu a fait pour nous. Elle nous rappelle que l'évangile nous libère de la cupidité qui se tapit dans notre cœur. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que comme Paul, nous avons bien soin de le faire? Est-ce qu'on a bien compris comment l'évangile opère dans nos vies? Lorsqu'il est compris et reçu, nos vies deviennent des illustrations de l'évangile. Par rapport à la gestion de nos biens, par rapport à la gestion de nos relations avec notre conjoint, par rapport à la relation avec nos enfants, nos collègues, nos voisins. L'évangile transforme toute notre vie. Elle change tout parce que tout est rééquilibré. Jésus-Christ reprend la première place. L'idolâtrie est chassée de nos cœurs. Et je crois que le fait de prendre soin des pauvres, il ne l'a pas fait une fois, je pense, Zachée. Il a commencé à le faire à ce moment-là. Et on doit continuer, nous aussi, à le faire, que ce soit en tant qu'Église, dans un ministère de compassion, dans un ministère de bienveillance, envers les frères, envers ceux du dehors, envers nos missionnaires. Mais on doit continuer à le faire aussi dans notre vie personnelle. Pourquoi? Parce que l'idolâtrie, elle est tapie quelque part dans notre cœur et elle peut si facilement, si rapidement reprendre nos cœurs. Et de continuer à être généreux envers les pauvres, c'est tenir cette idolâtrie au loin parce que Jésus-Christ est à la première place dans nos cœurs. Oui, c'est cela, la belle valeur de notre évangile. Il change nos vies. Il en fait des illustrations de la grâce, de la bonté de Dieu à notre égard. Et il nous affranchit, il nous libère de l'idolâtrie qui est tapie dans nos cœurs. Alors prions et rendons grâce à Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ce texte, cette injonction qui n'est pas là par hasard, qui n'est pas du tout déplacée, qui n'est pas hors contexte ou hors sujet. Elle est vraiment là, appropriée à l'évangile de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu as accepté d'être pauvre, de quitter ta gloire, de quitter toi qui possédais toutes choses, tu n'avais plus rien là sur la terre. De sorte que en mourant sur cette croix, tu nous enrichisses de ta sainteté, de ta justice. Du ciel. Merci Seigneur, notre Dieu. Te demandons pour que nos vies reflètent cela. Te prions pour que notre communauté, notre Église reflète ce message de Jésus-Christ. Te prions pour que tu nous délivres aussi, Seigneur, de cette propension à la cupidité, à la soif de posséder. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour que tu nous aides à démasquer ces choses-là au fond de nos cœurs. Certainement, tu nous éclaires en fonction de la manière dont on prend soin des pauvres. Merci Seigneur de continuer à œuvrer dans nos vies, dans nos cœurs, à chacun. Merci d'attirer encore des âmes à te connaître, à recevoir ton évangile. Peut-être quelqu'un ce matin dit, moi j'ai jamais vu Jésus-Christ comme cela, je me rends compte que je suis un peu comme Zachée, je viens pour le découvrir, pour le voir, pour me saisir de lui. J'ai compris qu'il peut m'apporter bien plus que tout ce que le monde peut m'offrir. Il peut m'apporter ce que le monde ne peut pas m'offrir. Il peut m'apporter le pardon de mes fautes. Il peut m'apporter une véritable espérance, glorieuse espérance de lui appartenir dès aujourd'hui pour l'éternité. Si c'était votre cas, vous pourriez lui dire « Seigneur, avec vos propres mots, Seigneur, viens habiter dans mon cœur. Comme tu es venu habiter dans la maison de Zachée, déloge de mon cœur l'idolâtrie. Lave mon cœur de tout péché, de toute souillure. Et visite-moi, Seigneur mon Dieu. Sauve-moi. Accorde-moi toute ta paix, toute ta grâce par Jésus-Christ. Amen.